de Paris. Vous nous appelez 0826 300 300, et bien sûr vous répondez à nos commentaires.
Oui, alors que vous inspire ce qui s'est passé donc ce week-end, Béatrice Brugère?
Écoutez, alors...
Vous, côté magistrat.
Oui, côté magistrat. Alors, j'ai entendu, vous venez de dire, est-ce que les journalistes sont coupables? Je ne suis pas sûre qu'ils soient coupables. Responsables, déjà, la question est intéressante. Je crois que ça interroge surtout la manière dont aujourd'hui dans notre société l'information fonctionne, et on voit très bien qu'elle devient une marchandise malheureusement, et qu'il y a une espèce de course au scoop qui fait que il y a une pression permanente sur ce type de journaliste, parce qu'on est quand même sur des journalistes très particuliers. Ce sont des journalistes qui travaillent sur les affaires judiciaires avec des informateurs, évidemment.
Bien sûr.
Donc les journalistes en question qui sont quand même réputés pour être des très bons journalistes ont été quand même mis en erreur, enfin induits en erreur par une information qui elle-même était fausse. Donc on ne va pas non plus, dire, faire une chasse à l'homme. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est peut-être de poser la question sur les relations entre la justice,
oui,
les médias et la manière dont l'information judiciaire peut être traitée par eux.
Oui, dont elle circule, quoi. Olivier Maurice, oui, puisque vous avez l'habitude forcément de travailler avec des journalistes. Bah, d'ailleurs, vous êtes là sur ce plateau ce matin, c'est pas un hasard, quoi. Hein.
Je serais beaucoup plus sévère parce qu'en fait, il y a une infraction à la base. L'infraction, c'est le fait que des policiers vont divulguer des éléments d'une enquête qui est en cours, d'une enquête qui est extrêmement sérieuse, et qu'ils vont transmettre à des journalistes. Et en fait, la problématique, elle est là. C'est que les médias se servent, notamment ces journalistes qui sont compétents, qui vont chercher leurs sources, et ils ne sont jamais poursuivis du fait du recel de sources qu'ils ont obtenues de manière irrégulière, parce qu'il n'y a pas de sanction à cet égard. Mais trop souvent, ce qui se déroule, c'est que les enquêteurs, les policiers, les gendarmes, qui ont des informations, sont en lien avec ces journalistes d'investigation et violent le secret de l'enquête ou le secret de l'information. Alors là, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un système où, en réalité, lorsqu'il y a une enquête ou une information, le seul qui peut communiquer officiellement, c'est le procureur de la République. Et là, on voit bien que le procureur de la République de Nantes, il a été totalement dépassé parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, parce qu'il y a eu une telle vague médiatique sur cette affaire-là qu'il a communiqué très tard le vendredi soir, en disant, mais attention, soyons prudents, on n'a pas d'éléments confirmant absolument cette information, mais le mal, il était déjà fait.
Oui.
Et là, voyez-vous, je pense et j'espère, cette pauvre personne qui a été mise en cause de manière totalement fantaisiste, moi, je serais à sa place, très franchement, je déposerais une plainte. Et j'espère.
Alors, c'est pas évident. D'ailleurs, il a hésité, visiblement, il ne va pas le faire. Hein. Il a envie d'être tranquille, mais peut-être que...
J'espère en tout cas que le parquet d'initiative va ouvrir une enquête préliminaire pour rechercher l'origine de cette fuite, parce que tout de même, vous voyez, on est dans un emballement médiatique et on perd tout repère. C'est-à-dire qu'en réalité, cette information qui est une information qui a été donnée à des journalistes en violant le secret professionnel, le secret de l'enquête, on a complètement oublié cela.
Oui, ça c'est vrai. C'est la question que l'on pose ce matin. Finalement, les enquêtes doivent-elles rester secrètes? Vous pouvez nous appeler 0826 300 300, 0826 300 300. Vous avez la parole dans un instant avec nos invités. Nous en débattons à la suite, évidemment, de cette affaire Dupont-Ligonnès.
Avec ce message aussi d'Hervé Guibert qui nous dit d'où l'importance de la maîtrise de la langue française. Les institutions judiciaires ont dit pour être Dupont de Ligonnès, et les médias ont transformé l'info en disant Ligonnès a été arrêté. Voilà, restez avec nous, on en parle dans un instant, il est 9h29.
Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée.
9h32, merci d'être avec vous, nous ce matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h.
Oui,
d'être avec vous.
Oui, d'être avec vous, d'être ensemble,
vous.
Bien sûr.
Oui, exactement. Avec cette question ce matin et l'affaire, bien sûr, Dupont de Ligonnès, la question, les médias peuvent-ils encore faire confiance à la police? Vous êtes en majorité sur Twitter à dire non, à plus de 75% et plus de 85% sur Facebook. En tout cas, pour ceux qui votent ce matin, vous pouvez toujours nous appeler au 0826 300 300 avec nos invités ce matin. Béatrice Brugère, qui est secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat Force Ouvrière, et Olivier Maurice, avocat pénaliste au bureau de Paris. Et on a un appel au standard.
C'est Eddy qui est avec nous de Montpellier. Bonjour Eddy.
0826 300 300, bonjour, bienvenue sur Sud Radio, Eddy.
Oui, bonjour Sud Radio.
Oui, bonjour.
Merci de me laisser la parole.
Oui. Avec plaisir.
Bravo pour vos émissions, tout d'abord. Hein.
Bon, merci. Bah, merci.
Merci beaucoup.
Et pour la diversité de vos intervenants.
C'est vrai.
Ouais. Non, mais ça, c'est...
Ça évite, comme certaines radios, de devenir le bar du commerce.
Oui, bah, alors oui. On l'est un peu. Non, mais il faut dire les choses,
non, mais...
Eddie. Parce oui, qu'on mais... l'est un peu parce qu'on donne justement l'opinion,
la parole à tout le monde.
Quoi. Et donc on a diverses opinions.
Oui, mais ça, justement, c'est... mais chez vous, je trouve qu'il y a une très grande diversité des intervenants.
Oui.
Ça permet à tout le monde de s'y retrouver.
Absolument.
Et une grande qualité, vous avez remarqué.
Voilà, et c'est une grande qualité.
Et je parle de vous, Eddie. D'ailleurs, on va vous écouter.
Ah ouais.
Merci. Allez, bon, moi, personnellement, je ne fais pas confiance à la police.
Ouais.
Bon, la police va mener une enquête, etc., tout ce qui s'ensuit. Mais pour les conclusions, je ne fais pas confiance à la police. Moi, je fais confiance à la justice. Je fais confiance à une justice organisée, à une justice démocratique, à une justice à laquelle on donne les moyens de travailler. Vous voyez, de faire des investigations, etc. Mais je ne fais pas confiance à la justice quand elle vient d'arrêter un gars tout de suite, puis que quelques minutes après, on a des déclarations, c'est un terroriste, ou alors c'est ci, c'est ça, etc., etc. Puis après, on s'aperçoit que c'est pas du tout ça, puis etc., etc. Là, on en a eu une flagrante avec l'histoire de Monsieur Ligonnès.
C'est pas la en l'occurrence, c'est là, pas la justice, c'est la police donc, qui a parlé vite.
Oui, c'est
vite.
La police, voilà, c'est ce que je veux dire. Là, on en a une preuve. Bon, tout de suite, on a jeté quelqu'un en pâture à la presse, dans deux pays différents, la presse pratiquement internationale, en gonflant le torse, on a arrêté M. Ligonnès, etc., etc. C'est quand même la police française qui a faxé à la police de Glasgow, arrêtez monsieur un tel, on a la preuve, on vous envoie les empreintes digitales, etc., etc. Et après, on essaye de leur faire porter le chapeau là-bas, en disant qu'ils ont arrêté quelqu'un. Écoutez, il y a eu une manipulation là-dessus. Moi, je trouve qu'ils se sont un petit peu précipités sur des... on s'aperçoit que maintenant, qu'avec les témoignages qu'il y a, ne serait-ce que des voisins de ce monsieur-là, qui vous disent qu'on le connaît depuis 30 ans, écoutez, franchement, il n'y a même pas besoin d'aller plus loin.
Ouais,
quand vous avez 50 voisins qui vous disent on le connaît depuis 30 ans, il travaillait à tel endroit et tout, écoutez, là... Mais,
en conclusion, donc vous ne
qui
faites,
sont les responsables,
vous, vous ne faites pas confiance à la police aussi pour communiquer les informations. Et en tout cas,
la police ne devrait même pas avoir le droit de communiquer
alors, ça, c'est alors ben, ça, vous rejoignez Béatrice Brugère et Olivier Maurice qui sont sur le plateau avec nous, secrétaire général du syndicat Unité Magistrats et Faux et avocat pénaliste Olivier Maurice. Hein, Béatrice Brugère.
Oui, alors je pourrais rebondir sur ce que vient de dire Maître Maurice. Je pense que le sujet est assez sérieux en fait et dépasse l'affaire, même si cette affaire nous permet d'en parler. C'est le problème de tout ce qui touche autour de l'enquête, du secret de l'instruction. Comment préserver à la fois une bonne enquête, la présomption d'innocence et l'information, le droit à l'information. Donc c'est un équilibre assez complexe dans une société qui va très vite, où il y a une très forte demande. Il y a une mission qui a été faite récemment par un parlementaire qui est Didier Paris, qui nous a interrogé, je ne sais pas s'il a interrogé aussi les avocats, mais je l'imagine, sur qu'est-ce qu'on fait de ce secret de l'enquête. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'il est tout le temps violé. Et on voit très bien qu'il est violé de manière diverse. C'est-à-dire que là, c'est les policiers, mais une autre fois, ça sera peut-être des magistrats, peut-être des avocats, même si les avocats ont une autre position par rapport à ça. Toujours est-il que la question, c'est est-ce qu'on maintient ce secret ? Ou est-ce qu'on dit, bon, bah maintenant, c'est terminé, on prend acte que la société, finalement, est comme ça, que le meilleur gagne.
Dans les faits, c'est ce qui se passe. Quoi.
Tout à fait. Et c'est là où je pense qu'il faut avoir une réflexion en profondeur du système que l'on désire avoir. Sachant que, quand même, derrière, il y a des vies, il y a des enjeux extrêmement importants. Une fois que vous êtes, j'allais dire, mis ou jeté en pâture par la presse, rarement, il y a un communiqué pour dire, on s'est trompé, etc. Et si vous voulez, moi je pense, en tout cas du côté de la justice, même si je ne représente pas la justice, mais en tout cas comme acteur de la justice, c'est que ce qui est sûr, quelle que soit la décision qu'on prendra, c'est que le ministère de la justice doit avoir une communication beaucoup plus forte et ne pas laisser obligatoirement en première ligne des procureurs qui sont pas toujours rompu d'abord à l'exercice de la communication, mais sur lequel il faut tout de suite stopper la déferlante quand elle existe, rétablir peut-être des éléments
de procédure. Oui, mais ça, c'est parce que souvent, donc on en parle quand il y a des grosses affaires, mais sur de plus petites affaires, à l'échelle locale, c'est pareil, ça existe aussi. Et des gens qui ont leur nom dans la presse, alors que, voilà, Olivier Maurice.
C'est exactement la même chose. Oui. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est que c'est vrai qu'il y a une violation systématique des secrets de l'enquête et du secret de l'instruction. Et puis tout le monde s'en contente.
Ouais.
C'est-à-dire qu'en fait, les journalistes, ils sont bien contents d'avoir ces informations parce qu'ils diffusent les scoops le plus rapidement possible.
Bah oui.
Et puis, en réalité, la problématique qui est posée, c'est de savoir à quel moment est-ce que on pourrait avoir des informations fiables sur des affaires qui sont en cours. Qui doit être chargé de communiquer ces informations? Quelles sont les fenêtres de communication qui peuvent exister? Et c'est assez complexe parce qu'aujourd'hui, officiellement, c'est le procureur de la République qui communique. Ouais. Mais le procureur de la République, nous considérons, les avocats, que le procureur de la République n'est ni indépendant, ni impartial. Et on en a la preuve récemment dans ce qui s'est passé, notamment à Nice, où le procureur de la République, en réalité, a été muté à d'autres fonctions, parce que dans l'affaire de cette femme, Madame Leget, qui avait manifesté, qui avait été renversée, on s'est rendu compte qu'il avait protégé le pouvoir exécutif au détriment de la vérité. Et donc, voyez-vous, en fait, l'auditeur a parfaitement raison de dire, mais la police, la gendarmerie, ne devraient pas avoir le droit de communiquer. Mais ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de communiquer. Et voyez-vous, à travers toutes les émissions qui existent, Faites rentrer l'accusé, d'autres émissions qui ont énormément de succès, parce que en même temps, l'opinion publique aime beaucoup les affaires de justice,
évidemment,
les affaires criminelles, on voit les policiers, les enquêteurs parler systématiquement et violer souvent le secret de l'enquête.
Oui, Béatrice Bruquet.
Oui, je reviens sur un procès extrêmement récent qui est celui de notre ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, qui a mis en fait en lumière une problématique interne aussi, puisque Maître Maurice vient de parler du statut du parquet. Nous, par exemple, notre syndicat s'interroge sur la nécessité de ce qu'on appelle les remontées d'informations systématiques, quasiment systématiques, dans les dossiers individuels, au ministère de la Justice. D'une certaine façon, et j'ose le trait peut-être un peu caricatural, c'est institutionnaliser la violation du secret de l'enquête. Parce qu'il n'y a aucune raison que dans des enquêtes individuelles comme ça, toutes ces informations remontent. Et si elles remontent par une chaîne qui permet peut-être parfois des fuites, il faut quand même le dire, c'est possible, c'est exactement la même chose au ministère de l'Intérieur, puisque la police a une double tutelle. Il faut s'interroger aussi sur les mécanismes internes de chaque institution qui permettent aussi des fuites. Et là, je pense qu'il y a une réflexion encore beaucoup plus générale qu'il faut avoir. Nous, personnellement, et je rejoins un peu aussi la problématique du statut du parquet qui mérite d'être conforté ou en tout cas d'être modifié, il faut aussi qu'on s'interroge sur la nécessité de faire remonter ces informations pour le ministère de la Justice. Et qu'est-ce que ça a fait? Ça a donné une violation du secret professionnel, en tout cas
Dans
l'affaire Ovas, où cette information avait été donnée à M. Soler.
Ouais, je suis d'accord en même temps avec le fait que ce n'est pas le ministre de la Justice ou ce ne sont pas ses conseillers qui vont communiquer sur des affaires en cours, parce que ce serait extrêmement grave,
dans
la mesure où nous, les avocats, on considérerait alors là, à ce moment-là, que c'est une immixtion du pouvoir exécutif du ministère de la Justice dans le cadre d'affaires en cours. Et donc, ça, c'est pas possible. Et vous savez qu'il y a déjà eu des précédents, où il y a des ministères qui sont intervenus, des ministres de l'Intérieur, de la Justice, des affaires étrangères, dans des affaires qui étaient en cours.
C'est aussi la difficulté, si les enquêtes devenaient complètement secrètes, derrière, il y a beaucoup de choses qui pourraient être étouffées. Hein. C'est ce que se dit probablement aussi les auditeurs qui nous écoutent. Quoi.
Juste très
Béatrice
rapidement,
Bougère, et puis ensuite
c'est ce que je dis, c'est-à-dire que je pense que cette remontée d'informations n'a pas lieu d'être au ministère de la Justice.
Existe depuis très longtemps.
Je sais, mais je pense... Mais il y a beaucoup de choses qui existent depuis très longtemps sur lesquelles on peut s'interroger. Mais elle a pris une dimension très différente.
Ouais.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les magistrats sont tenus au disciplinaire... pour ne pas s'ils ne le font pas. Et cette masse d'informations est une pression et elle multiplie les occasions peut-être de fuite.
Ce que je veux dire par là, parfois, c'est éventuellement dérapage.
C'est qu'il faut réfléchir sur comment conforter en effet la protection de l'enquête, comment la conforter avec, de manière équilibrée et comment aussi avoir une communication au sein du ministère de la Justice. Quand je dis ministère de la Justice, je ne veux pas dire du garde des Sceaux, je veux dire au sein de l'institution, je précise, pour avoir une communication qui évite ces dérapages. dérapage.
Oui. Allez, et on a beaucoup de standard,
oui, mais avant, on a beaucoup de messages de gens qui nous disent, mais quel recours justement pour ce monsieur, Guy Joao, qui a quand même subi la presse, son nom dans la presse. Est-ce qu'il y a un recours possible, lui ?
Bien évidemment qu'il y a un recours, parce que une enquête préliminaire va être ouverte ou est déjà ouverte, je n'en sais rien, pour violation du secret professionnel, violation du secret de l'enquête, et cette personne, bien évidemment, est victime. Et puis, les parties civiles qui sont aussi constituées dans le dossier Xavier Dupont de Libonnais, il y a des avocats aussi qui sont constitués, qui peuvent aussi déposer des plaintes pour faire rechercher justement d'où vient la fuite. Mais si je crois savoir que la fuite a été confirmée à très haut niveau, j'ai quelques doutes sur l'issue de cette enquête. C'est-à-dire qu'à mon avis, elle va être très rapidement classée, ou en tout cas, on n'essaiera jamais d'aller très loin dans la recherche de la vérité.
Oui, oui.
Et on va au standard avec Bruno qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Bruno.
Bonjour Bruno.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Moi,
oui.
Merci, bon, merci à tous de me recevoir. Et moi, en fait, j'ai suivi l'histoire vendredi, comme tout le monde. En fait, je zappais et je suis tombé sur BFM. Donc, l'annonce est tombée.
Oui.
Mais moi, je trouve que, comme l'auditeur qui a parlé juste avant moi, là, au téléphone, donc, là, on peut pas avoir confiance à la police. Vu la situation, je trouve qu'avant d'être sûr et certain d'une source, il devrait être sûr, avoir une confirmation. Enfin, je sais pas. Évidemment que peut-être le policier qui a balancé le truc. Voilà, c'est comme tout, il a voulu faire le buzz, et alors, le problème, c'est que...
C'est vrai que, Bruno, on commence sans tout connaître, savoir. C'est pas forcément qu'un seul policier qui a voulu faire le buzz. Visiblement, donc, c'est plusieurs policiers, et c'est même des hauts responsables. Hein. On ne donnera pas de nom, mais visiblement, c'est remonté très très haut. Donc, à partir de ce moment-là, où ils ont dit aux journalistes en question qui les appelaient, l'info, elle est sûre à 100%. Voilà ce qu'ils ont dit pendant 2 heures. Et après, ils se sont aperçus que c'était pas tout à fait aussi certain. Donc, résultat, ils ont conduit les médias un peu qui sont empressés de donner cette information, quoi. Donc, vous voyez, la police, elle a affirmé quand même que, visiblement, il y avait eu l'arrestation et c'était la bonne personne, quoi.
Mais vous voyez, le problème tout de même, c'est que cette violation du secret de l'enquête, elle jette le discrédit sur le travail de la police. Alors que les policiers sont au service de la justice, là en l'occurrence, ils sont au service des juges qui font un travail au niveau de l'instruction, et que la plupart du temps, il faut le dire, les enquêteurs font un travail de qualité,
bien sûr,
expériences. Mais, et donc, ça montre vraiment le dysfonctionnement et la dérive de cette affaire, puisque ça jette en plus le discrédit sur des services d'enquête qui, eux, essayent, avec le professionnalisme des enquêteurs, d'être au service de la justice. Le problème, c'est que les policiers, les gendarmes, veulent souvent être trop visibles. Ils veulent être de plus en plus visibles.
Médiatisation complète de la société.
Il y a un goût de la médiatisation des services d'enquête.
Bruno, on a répondu à votre question ou pas ?
Tout à fait. Après, je comprends, je me mets aussi à la place des policiers. Imaginez que ce soit, que c'était le vrai du polygonesse.
Mais
là, tout le monde a le regard. Je veux dire, quelque part, il vaut mieux aussi peut-être se tromper, mais peut-être attendre vraiment la source, que la source soit fiable, avant de faire le buzz.
Non, mais ça, c'est vrai. En tout cas, c'est une leçon qu'il faudra tirer de cette affaire. En conclusion, les enquêtes, elles ne pourront jamais rester secrètes, mais il faut revoir un peu les choses, quoi. C'est ce que vous dites, Béatrice Rougière.
Ça a été démenti. Ils ont été induits en erreur, ça a été démenti.
Ça a été démenti assez vite, quand même.
Combien de fausses informations qui n'ont jamais été démenties par des... Voilà, je trouve qu'il faut aussi... je suis désolée de dire ça, mais il faut aussi un peu relativiser cette affaire. Parce que le nombre de fausses informations où les journalistes n'ont jamais été, mis en demeure de démentir ou se sont posé la question s'il fallait le faire, ça, c'est un vrai sujet aussi. Moi, je pense que le sujet doit être remis à plat de façon très sereine, en fait, par rapport à notre société. Mais avec rigueur aussi, rigueur, parce que c'est un choix de procédure que l'on défend ou que l'on ne défend pas. Et si on ne défend pas le secret de l'enquête, à ce moment-là, on bascule dans autre chose. Mais il faut des pare-feux et réfléchir à comment les mettre en place.
En tout cas, conclusion un peu de cette affaire, les journalistes ne vont pas pouvoir dire au ministre, reprocher au ministre Christophe Castaner de parler trop vite, qui a parlé trop vite, parce qu'eux ont parlé trop vite. dans cette histoire.
Et n'oublions jamais le respect de la présomption d'innocence.
Oui, absolument. Alors, pour les journaux de presse écrite, c'est vrai que, comme ils bouclent souvent à 22h, 23h, et que là, on leur donnait l'information sûre, bah, ils ont quasiment tous titré Dupont de Ligonnès, arrêté le lendemain matin. Bah, ça la fout mal quand vous apprenez à 13h que ce n'est pas lui. Il y en a quelques-uns quand même qui avaient mis un point d'interrogation. C'était le cas, par exemple, du journal La Provence. Philippe Schmitt, d'ailleurs, sera avec nous, le directeur de la rédaction, tout à l'heure, à 10h30, avec Valérie Expert, sur l'autre sujet, les médias sont-ils coupables également, puisqu'on va, on va continuer sur ce thème tout à l'heure. Merci, Maître Merci. Olivier Maurice et Béatrice Baugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrat FO.
Et dans un instant, on sera avec Stéphanie Fugain, la présidente de l'association Laurette Fugain, vous savez, qui lutte contre la leucémie. Et puis, pour ce livre, derrière les blouses blanches, témoignage aux éditions Flammarion, c'est enfin cinq portraits de personnel de la santé qui, ça a peut-être changé un petit peu la vision que vous avez de l'hôpital. Restez avec nous, 9h48, c'est le Grand Matin Sud Radio.